Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à l'Amérique d'Obama avec un regard aujourd'hui sur la politique étrangère du président américain, lequel fut élu en 2008 pour mettre fin à deux guerres épuisantes et interminables. Plus qu'une promesse, une réflexion stratégique sur fond de constat selon lequel au XXIe siècle, tous les problèmes n'ont pas une solution militaire lourde et globale, devenue inadaptée face à l'évolution des menaces. À en juger les attaques de drones, les frappes aériennes, les forces spéciales dont les effectifs sont passés de 37 000 en 2001 à 67 000 en 2012 et devraient atteindre 72 000 en 2017. La question se pose de savoir ce qui a vraiment changé dans la politique de Washington sous la présidence Obama. Et que dire de la gestion du phénomène terroriste? C'est tout cela que nous allons voir avec nos invités. Maya Kandel, spécialiste de la politique étrangère et de défense ainsi que du Congrès américain, chercheur associé à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, auteur de Obama face au terrorisme, chronique d'un échec, point d'interrogation, étude qui vient de paraître dans la collection Potomac Paper de l'IFRI. Bonjour.
Bonjour.
Par téléphone, Alain Diekhoff, directeur du série Sciences et directeur de recherche au CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Et Steven Ekovitch, historien, analyste politique, professeur à l'Université américaine de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Ses détracteurs reprochent à Barack Obama et à sa politique moyen-orientale d'avoir été faible et d'avoir manqué de vision stratégique. Ce reproche est-il pertinent? Et de quoi parle-t-on? De faiblesse ou de sagesse, Alain Diekhoff?
Oui, je pense que l'alternative est assez juste. Tout dépend de la façon dont on voit, évidemment, et on analyse ce bilan de 8 années. Si on la mesure à l'aune de la politique qui avait été celle de Bush, fils, extrêmement interventionniste, pour, disons globalement, quand même un bilan assez désastreux, on peut évidemment juger que Obama était beaucoup moins activiste, mais il me semble plutôt que cette réorientation a été en effet finalement assez sage. Et en ce sens-là, je dirais que oui, il a dessiné en tous les cas vers le Moyen-Orient une autre politique étrangère qui est basée sur des principes d'ailleurs généraux qui sont pas uniquement valables pour le Moyen-Orient, mais qu'il a présenté au début de cette année, c'est-à-dire ne pas intervenir militairement, sauf si les intérêts américains sont directement menacés, intervenir seulement si les États-Unis peuvent véritablement, faire une différence de nature qualitative et chercher autant que possible des solutions diplomatiques et non pas la guerre. Donc, globalement, oui, sa politique, c'est, à mon sens, un peu articulée autour de ses principes, et il a infléchi la politique américaine au Moyen-Orient indéniablement. Et bon, l'histoire jugera peut-être sur le long terme, mais je pense qu'il était certainement sage, de mon point de vue en tous les cas, après les errements quand même de l'administration Bush, d'aller dans cette direction.
Alors, infléchissement de la politique américaine au Proche et Moyen-Orient. Maya Kandel, est-ce qu'on peut finalement parler de retrait de l'Amérique ou plutôt de retour à la normale de la politique américaine dans la région?
Alors, je crois qu'en effet, il y a indéniablement un certain désengagement du Moyen-Orient. Alain Diekhoff l'a rappelé. Au-delà, effectivement, l'histoire jugera. C'est vrai que la politique étrangère d'Obama au Moyen-Orient, comme dans d'autres régions du monde, mais en particulier au Moyen-Orient, repose sur un certain nombre de paris. Mmh. Et en particulier, ce qu'on trouve par rapport à l'Iran, qu'on trouve avec d'autres d'ailleurs, une sorte de solde de tout compte par rapport aux ennemis de l'Amérique. Donc, et ce qui a guidé en grande partie la politique d'Obama, notamment vis-à-vis de la Syrie, c'était cette priorité à l'Iran. Donc, réconcilier les États-Unis et l'Iran, l'accord sur le nucléaire iranien, et plus largement, réintégrer en quelque sorte l'Iran dans le jeu diplomatique au Moyen-Orient, en espérant que cela permettrait justement aussi aux États-Unis de se désengager. Toute la philosophie d'Obama, c'est cette idée, alors elle est qualifiée de doctrine de responsabilité, stratégie de parrainage, d'autres vocables, peu importe. L'idée, c'est que les États-Unis puissent se tourner vers l'avenir, c'est-à-dire vers l'Asie, le pivot, se désengager du Moyen-Orient et pour cela laisser d'autres acteurs locaux prendre en charge la sécurité de la région. Donc à cet égard, il y a un pari et c'est vrai qu'on pourra juger sur le long terme.
Steven Ekovitch.
Oui, je voudrais souligner ce qui a déjà évoqué Maya Kandel et Alain Diekhoff. Pour porter un jugement sur le bilan d'un président, tout dépend sur quelle durée on porte ces analyses. Dans les médias, on peut dire qu'en effet, Barack Obama avait des difficultés. Il était critiqué même récemment par John Kerry, par sa politique en Syrie, parce que Kerry estimait qu'il fallait une diplomatie, par exemple, plus musclée. Mais encore une fois, il faut revenir sur nos jugements dans quelques années, dans la moyenne durée. Et dans la plus longue durée, on va voir si oui ou non Barack Obama a vraiment apporté un vrai changement de politique américaine au Moyen-Orient, ou est-ce que ses politiques, son approche au Moyen-Orient a vraiment changé les donnes dans la région.
Alors, avant de savoir quelles seront finalement les conséquences, et peut-être ce sera intéressant de voir ce qui attend le prochain président américain, Alain Dietkoff, pour bien comprendre et peut-être apporter des images, qu'est-ce qui finalement a fondamentalement changé entre la présidence Bush et la présidence Obama quant à la politique de Washington au Proche et Moyen-Orient ?
Ah ben là, je crois qu'il y a quand même des marqueurs assez nets, hein. C'est le désengagement de l'Irak, c'est à l'inverse le non-engagement en Syrie qui est très très clair. Alors évidemment qui a été critiqué par certains. C'est vrai que le non-engagement en Syrie a aussi un prix. Il est en particulier évidemment humanitaire, hein. Mais en même temps, Obama, à mon avis, a raison de dire que rien ne dit que si les États-Unis étaient intervenus directement ou en soutenant de façon plus claire au moins certains groupes rebelles, la situation serait meilleure aujourd'hui. Donc je pense que c'est quelque part un faux procès qu'on lui fait. Il s'est en tous les cas tenu à cette ligne de non-intervention en pensant qu'elle ne réglerait rien fondamentalement. Cela dit, il est évident que les États-Unis se désengageant dans une certaine mesure, et cette politique de non-engagement en Syrie le montre, ils ouvrent quelque part un espace pour d'autres, et en particulier pour les Russes, qui évidemment en profitent pour quelque part faire un retour avec une politique très claire de puissance, d'intervention directe aux côtés du régime. Donc évidemment, il faut savoir si quelque part, sur le long terme, c'est tenable pour la défense des intérêts américains eux-mêmes, hein. C'est-à-dire, est-ce qu'on accepte finalement sur le long terme que d'autres acteurs, en particulier les Russes, reviennent de façon plus forte sur la scène moyen-orientale. Je ne suis pas certain, en effet, que les Américains puissent se le permettre sur le long terme, parce que, bien évidemment, ce désengagement, et ça on le sait, on en a eu pas mal d'indices, est mal perçu, très mal perçu, même par les États arabes sunnites, en particulier l'Arabie saoudite, qui se retrouvent désormais beaucoup plus directement avec leurs ennemis, et en particulier avec les Iraniens. Donc là, ça c'est l'autre volet. Le grand changement, ça, c'est aussi finalement le fait qu'on est sorti finalement d'une logique qui était celle d'une certaine endiguement qu'avait prôné Bush en particulier, mais même d'ailleurs ses prédécesseurs, et qu'on a choisi la voie diplomatique, ce qu'Obama a fait avec l'accord de l'an dernier. Mais là aussi, c'est vrai, il y a une dimension pari. On ne sait pas si c'est quelque chose qui permettra sur le plus long terme de véritablement empêcher les Iraniens de rentrer dans la logique de l'appropriation de l'arme atomique.
Alors, trois choses par rapport à ce que vient de dire Alain Dietkoff, si vous me permettez, toujours à propos de la Syrie, hein. Finalement, Barack Obama a préféré le rétropédalage. On se rappelle des menaces, la ligne rouge, l'été 2013, la ligne rouge avec la question de l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Et finalement, donc, le président américain a préféré le rétropédalage plutôt que le coût d'une intervention et évidemment refus de tout enlisement. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, pour rebondir sur ce que vient de dire Alain Dietkoff, on est frappé du contraste entre la détermination russe et le flottement occidental, toujours sur la question de la Syrie. Et puis, cette question que je pose par rapport aux alliés des États-Unis dans la région, finalement, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a peut-être eu un problème de communication de la part de la Maison-Blanche, communication auprès des alliés de la région sur la politique américaine et les choix qui étaient faits par Washington. Je lance le débat. Maria Candel.
Alors, on évoquait l'Arabie saoudite. Je pense qu'il y a un événement qu'il faut rappeler, ça date un peu déjà, mais les printemps arabes en 2011, 2011. Obama, assez rapidement, choisit d'être, entre guillemets, du bon côté de l'histoire et va lâcher donc Moubarak en Égypte. Et ça, ça va avoir un impact très important sur les Saoudiens en particulier, qui sont pour le moins estomaqués de voir la rapidité avec laquelle le président américain va lâcher un allié de 30 ans, donc Hosni Moubarak. Et le deuxième point de rupture, et donc je ne sais pas si c'est vraiment c'est une question de communication, mais c'est tout simplement le fait de comprendre les priorités du président Obama. Deuxième point de rupture, c'est donc août 2013, quand Obama décide de ne pas intervenir en Syrie, alors même que Assad vient d'employer les armes chimiques contre son peuple, c'est-à-dire une ligne rouge édictée par Obama lui-même. Et à partir de là, les Saoudiens décident que, enfin, se disent que réellement les Américains ne sont plus l'allié qu'ils étaient, et les Russes vont profiter de cette ouverture pour se réinvestir en Syrie et donc reprendre une place au Moyen-Orient. Mais cela dit, Obama a quand même eu des initiatives pour tempérer cela. Il y a un certain nombre de paradoxes, notamment dans la relation avec l'Arabie Saoudite, puisque d'un côté, les Saoudiens ont cette perception de lâchage, il y a une prise de distance des Américains, tout à fait délibérée. D'un autre côté, les ventes d'armes américaines à l'Arabie Saoudite ont atteint des records sous Obama, près de 100 milliards de dollars, donc ce n'est pas négligeable. Et l'autre aspect très important, qui commence à être très discuté à Washington aujourd'hui, c'est le soutien américain à la guerre menée par l'Arabie Saoudite au Yémen. Qui est une autre guerre particulièrement sanglante, avec des victimes, enfin comme toutes les guerres, mais avec des victimes civiles comme à Alep, etc. Et où le soutien américain à l'Arabie Saoudite commence à poser des problèmes, en particulier au Congrès et dans l'opinion même américaine.
Stephen Yukovitch.
Oui, nous avons déjà vu que tout est lié. Mm-hmm. On ne peut pas parler de la Syrie sans parler de l'Arabie Saoudite, de la politique américaine dans la région du Golfe arabo-persique, les relations avec l'Iran, toute tentative de remettre l'Iran dans un jeu d'équilibre de pouvoir régional, la Russie et toute politique américaine par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Et comme a dit déjà Maya Kandel, Obama et la Maison-Blanche, et c'est Hillary Clinton d'ailleurs, qui voulait plutôt réorienter le gros de la politique américaine, des ses intérêts, en Asie. Après tout, plus de 50% des échanges commerciaux américains sont avec l'Asie. Le Moyen-Orient fournit encore des hydrocarbures, c'est un fournisseur très important, mais même cette donne-là est en train de changer. L'Arabie Saoudite et les États-Unis, ce sont des alliés de très longue date. C'est une alliance longue, profonde, problématique, parce que vous pouvez pas avoir deux régimes politiques aussi différents, une république démocratique américaine et un régime fondamentaliste musulman qui pose des problèmes, bien évidemment. Mais encore une fois, les géostratégiques, les géopolitiques, les intérêts propres, il faut être réaliste, priment ici dans le Golfe, et les États-Unis vont rester un allié avec l'Arabie Saoudite, comme d'ailleurs aussi avec l'Israël. Donc ça, c'est deux données qui vont pas changer. Il y aura des inflexions, il y aura des amertumes, il y aura des crises dans les relations, mais fondamentalement, les États-Unis et l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, ainsi que l'Israël, ces données-là vont pas changer.
Alors, pour rebondir sur la politique moyen-orientale moins interventionniste, on le dit depuis le début de cette émission, cette nouvelle politique, d'une certaine manière, déstabilisé les alliés traditionnels, les amenant à interroger la solidité du parapluie américain. Alain Diakov, quelques mots sur l'Arabie Saoudite. On voit l'Arabie Saoudite aujourd'hui avoir sa cote de popularité chuter de façon très importante aux États-Unis, et puis ça risque de ne pas s'arranger avec la décision du Congrès américain d'annuler le veto que Barack Obama venait d'opposer à une loi autorisant un citoyen américain à poursuivre un État ayant assisté des organisations impliquées dans des activités terroristes contre les États-Unis. Bon, on sait que les élections ne sont pas loin et que les choses peuvent encore bouger, mais tout de même, on voit qu'il y a des choses qui s'expriment par rapport à l'Arabie Saoudite, ce qui n'était pas le cas il y a quelque temps.
Oui, alors moi je me permettrai de répondre à votre question tout en rebondissant sur ce que mes collègues ont dit, qui me paraît en effet très juste et qui quelque part, je dirais pas résume un peu le changement que Obama a imprimé, mais en effet va un peu dans cette direction. C'est-à-dire que pour moi le grand changement, c'est dans le fond que les États-Unis sous Obama ont rompu finalement avec une politique qui a été en fait initiée par Bush père quelque part, c'est-à-dire l'envoi direct de troupes américaines. prennent sur place. C'est ça à quoi il a mis un terme finalement. Ça ne veut pas dire qu'il se désintéresse et que les États-Unis à travers lui se désintéressent du Moyen-Orient. Mais ce qu'il demande quelque part, c'est que finalement, ceux qui prétendent être des alliés américains d'une façon ou d'une autre, avec les difficultés que l'Arabie Saoudite peut représenter d'ailleurs dans ce panorama, que quelque part, ils se prennent davantage en charge. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils assurent davantage leur propre sécurité. Et c'est dans le fond ce qui se passe avec la guerre, qui n'est pas évidemment très concluante pour le moment, mais que les Saoudiens mènent au Yémen. C'est-à-dire, en gros, le message des Américains était de leur dire, on peut vous assister avec des conseillers, avec des drones, etc. Mais en gros, c'est à vous de faire le job, quoi. Et ça, c'est un changement. Il les met face à leur responsabilité. En gros, il leur demande un petit peu de se comporter, à toute proportion gardée, évidemment, un peu comme les Israéliens. C'est-à-dire que dans le fond, les Israéliens ne demandent rien aux Américains en termes d'intervention directe. Ils leur demandent de les soutenir, évidemment, financièrement, avec les 3 milliards de dollars qui risquent même d'ailleurs d'augmenter hein, sur les 10 années à venir. Ça, c'est un indice quand même intéressant qui montre que de ce point de vue-là, il n'y a pas de désengagement du tout. Mais sinon, les Israéliens ne demandent pas que des soldats américains meurent pour eux, voilà, pour résumer. Hein. Donc ça, c'est le changement. En gros, ils demandent aux alliés les plus proches, et là, les Saoudiens sont clairement dans le collimateur, dire bon, bah, c'est à vous aussi d'aller sur le terrain, grosso modo, et d'assumer vos responsabilités, et aussi, certainement, à terme, de clarifier un peu votre ambivalence, c'est-à-dire que d'un côté, vous êtes pour des raisons stratégiques proches de nous, en même temps, bon, c'est vrai que votre régime encourage quand même une lecture extrêmement fondamentaliste de l'islam, qui est potentiellement plutôt contraire à nos intérêts, je dirais pas uniquement américains, mais de façon générale occidentaux.
Alors, appel à un partage du fardeau, véritable rupture dans la politique étrangère américaine, Maya Kandel et Stephen Ekovitch, vous partagez ?
Oui, tout à fait. Il y a effectivement plusieurs phases, si on regarde l'implication américaine au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Il y avait une rupture en 91 sous Bush père avec la guerre du Golfe. Et là, Obama, d'une certaine manière, referme cette phase suite à l'analyse qu'il fait des erreurs stratégiques de Bush avec les opérations en Irak et au-delà en Afghanistan. D'un autre côté, si on revient un peu plus sur vraiment la lutte contre le terrorisme, on ne peut que constater que depuis 2014 et l'irruption du groupe État islamique, en réalité, on a un réinvestissement américain en Irak et en Syrie, dans une moindre mesure. Mais en Irak, aujourd'hui, il y a eu encore des récents renforts annoncés juste la semaine dernière. Et on est à nouveau à près de 5200 soldats américains sur le terrain. Donc finalement, c'est tout le paradoxe finalement de ce bilan Obama, c'est-à-dire une volonté de se désengager au moins de ce que disait Alain Diekhoff, c'est-à-dire une intervention directe militaire américaine sur le terrain. Et en fait, les faits qui conduisent à un retour américain en Irak, alors même que c'était vraiment la promesse de départ et l'engagement de départ d'Obama de retirer les soldats d'Irak.
Mais les circonstances ont évolué, Stephen Ekovitch.
Oui, non, Obama, il a une allergie profonde à mettre sur le terrain un nombre massif des militaires américains. Ça n'empêche pas qu'il n'hésite pas d'envoyer des forces spéciales aussi pour former et même encadrer les troupes des alliés ou des amis. Là, il donne l'impression de vouloir pas trop bousculer les choses pour l'instant. N'oublions pas qu'il arrive en fin d'un deuxième mandat. Il peut pas se ré-représenter. On peut dire que, à la limite, il entretient une certaine stabilité fragile pour passer la patate chaude au prochain président, à la prochaine présidente, si vous voulez. Donc, intervention massive. Aucune question, il faut pas le faire. Néanmoins, les frappes du drone, des forces spéciales, encadrement des Saoudiens au Yémen, les militaires américains encadrent et aident les Saoudiens. Ils sont frustrés, semble-t-il, les Américains. On a des fuites. Ils sont hébétés de quelques bavures sur les frappes qui ratent leur cible, par exemple. Donc, les Américains veulent encadrer, aider, encourager, mais ils se rendent compte que c'est pas toujours facile de tout simplement encadrer sans aussi d'être tenu responsable des dommages collatéraux faits par les alliés.
On poursuivra dans la deuxième partie de l'émission sur l'aspect syrien et autres pays, notamment l'Iran. En géopolitique, nous retrouvons nos invités Maya Kandel, Alain Diekhoff et Stephen Ekovitch. Nous les retrouvons dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la politique américaine au Proche et Moyen-Orient. Nous retrouvons nos invités, Maya Kandel, spécialiste de la politique étrangère et de défense, ainsi que du Congrès américain, chercheur associé à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, Alain Diekhoff, directeur du CERI Sciences Po et directeur de recherche au CNRS, et Steven Ekovitch, historien, analyste politique et professeur à l'Université américaine de Paris. Alain Diekhoff, on évoquait bien sûr la Syrie dans la première partie de l'émission et je constatais qu'on était frappé du contraste entre la détermination russe en Syrie et le flottement occidental. Évidemment, à quelques semaines de l'élection présidentielle américaine, on voit bien Moscou avoir une sorte d'autoroute pour sa politique en Syrie. Est-ce qu'Obama n'a pas finalement créé les conditions d'une réintroduction de la stratégie des boots on the ground pour son successeur?
Alors évidemment, c'est un peu difficile de se projeter dans ce qui pourra arriver à partir du début de l'année prochaine. Bon, je dirais que d'abord une critique sur la stratégie américaine d'Obama vis-à-vis de la Syrie. Je pense que pour moi, la critique essentielle porte sur la question de la crédibilité, c'est-à-dire dire d'abord que on ne tolérera pas l'usage d'armes chimiques et considérer ces lignes rouges et finalement après accepter cela. Ça a quand même été pour moi un problème majeur, c'est-à-dire que soit vous fixez pas de lignes rouges ou si vous en fixez, quelque part, il faut que vous sanctionniez d'une certaine façon, ce qu'il n'a pas fait.
Donc, décalage entre la action et le discours, finalement.
Ah oui, ça c'est très clair, et ça je pense que de toute façon générale en politique étrangère, comme dans toute politique d'ailleurs, c'est pas très bon. Donc quelque part ça a évidemment joué dans une certaine décrédibilisation de la parole américaine au Moyen-Orient. Alors, vous m'interrogez sur l'avenir. Les changements qu'il a cherché à imprimer en donnant plus de place aux acteurs locaux, en se désengageant, en ouvrant finalement un peu un espace nouveau, et en particulier pour les Russes qui font à l'évidence un retour assez net au Moyen-Orient, c'est peut-être pas tenable sur le long terme, tout simplement pour la défense des intérêts américains. Donc on va peut-être voir en effet assez vite les limites de ce repositionnement stratégique, et peut-être les États-Unis seront-ils obligés d'une certaine façon de revenir militairement de façon un peu plus nette que ça n'est le cas aujourd'hui, dans les années à venir, tout simplement parce qu'ils se rendront compte que quelque part il y a aussi une impasse. Mais ça montre malheureusement que c'est extrêmement difficile de trouver la bonne réponse, parce qu'on l'a bien vu, on peut mesurer les limites qui ont été celles de l'administration Bush dans l'intervention tous azimuts, qui sont évidentes, mais il y a aussi peut-être des limites dans la stratégie d'Obama. Donc c'est trouver vraiment la bonne voie finalement pour gérer cet univers qui en plus est en totale déstructuration pour le moment, c'est quand même très compliqué.
Alors, Maya Kandel, pour aller plus loin dans ce que vient de dire Alain Diekhoff, qui évoquait les limites de la stratégie d'Obama, finalement, la politique étrangère de la Maison-Blanche depuis 8 ans, qu'est-ce que l'on peut dire? Qu'elle a été efficace, inefficace? Les objectifs ont été atteints? On est au milieu du guet, Maya Kandel?
Là, on parle de la Syrie, et je pense que la Syrie, effectivement, va rester quand même comme une tâche sur l'héritage d'Obama, même si en effet, moi je suis pas persuadée que l'inverse aurait été forcément... Enfin, on a vu dans les années 2000 ce que donnait une intervention militaire américaine au Moyen-Orient. Sur l'ensemble de sa politique, je pense qu'il a quand même un bilan globalement positif. Sur le plan diplomatique, il y a quand même un certain nombre de réussites, en particulier, je l'évoquais par rapport à l'Iran, mais cette volonté de réconciliation, voire de solde de tout compte avec un certain nombre d'ennemis des États-Unis, il y avait l'Iran, mais il y a aussi Cuba, il y a la Birmanie. Je pense que le choix de la diplomatie avant le choix des armes est quand même quelque chose que l'on peut porter au crédit d'Obama. Sur le plan des négociations internationales, alors c'est vrai qu'on est dans une époque de recul global de la gouvernance mondiale, mais sur le plan des négociations climatiques, on peut dire que Obama, là aussi, a un bilan positif, et on ne sait pas du tout ce qui nous attend à sa suite. Et sur ce qui était peut-être le principal objectif de sa politique étrangère, donc on en parlait dans la première partie de l'émission, la réorientation générale vers l'Asie-Pacifique, puisqu'il considère, Steven Ekovitch le soulignait également, que le centre de gravité des relations internationales se déplace vers l'Asie. Alors, il a été rattrapé par les événements au Moyen-Orient, Mais il a quand même impulsé un mouvement, un réinvestissement des États-Unis, là encore, aussi sur le plan diplomatique, au sein des instances multilatérales de la région. Après, dans le même temps, il y a un changement au niveau de la politique étrangère aussi de la Chine. Et donc là, une politique étrangère ne se fait jamais dans le vide toute seule. Donc là, il faut prendre en compte aussi ce qu'a fait Pékin.
Alors, pour en rester à la région, Stephen Ekovitch, proche et moyen-oriental, avec ce constat quand même d'une décomposition certaine ou d'une certaine décomposition, je ne sais pas, sur l'efficacité de la stratégie américaine
Je crois qu'il y a une différence culturelle ici entre l'approche diplomatique américaine et l'approche des autres. Je crois que Barack Obama, les Américains en général, pensent qu'en diplomatie, on peut engager l'autre et chercher ensemble une solution à un problème. Mais je crois que les autres trouvent dans cette approche-là, je crois que c'est culturel, on trouve dans cette approche-là des points de faiblesse. C'est une façon de manipuler et d'avancer, de s'enfoncer dans des points faibles de cette approche. Et je crois que dans la relation, par exemple, entre John Kerry et Lavrov, c'est ce qu'on trouve. John Kerry a jeté l'éponge. Kerry a quasiment traité de Lavrov de menteur, par exemple.
Le ministre russe avait cet engagement.
Mais je crois que ça revient encore d'une façon culturelle d'aborder les négociations et des discussions avec l'autre. Là où les Américains pensent dans la bonne volonté des autres, la possibilité de trouver une solution d'ensemble, encore une fois, je crois que les autres trouvent des menaces. Mais il faut encore dire, dans la région, Barack Obama, quand même, il a fait des choix en face des limites. Des limites de plusieurs genres. D'abord, il y a limite l'opinion publique américaine qui veut plus une intervention militaire massive dans la région. Donc, il ne veut pas aller à l'encontre de cette opinion publique. Surtout dans une période d'élection présidentielle où il préfère que sa candidate se la remplace. Et aussi, il ne faut jamais oublier, et Maya Condell le sait bien, le poids du Congrès américain, le législatif freine. Une vraie puissance, c'est pas une puissance fine, c'est une puissance lourde que détient le Congrès américain. Par exemple, il y a une législation américaine qui exige que chaque fois qu'une transfert d'armes sophistiquées à leurs alliés dans le Golfe, le Congrès américain exige qu'un transfert d'une technologie davantage sophistiquée soit livré à l'Israël. Ça s'appelle Qualitative Military Edge, et c'est une législation. Le Congrès américain exige de la Maison-Blanche que l'Israël détienne toujours l'avantage technologique sur ses voisins dans la région. Et il y a aussi, bien évidemment, une fatigue de la guerre. Il y a aussi, malgré la puissance américaine, Barack Obama, estime qu'on ne peut pas faire jouer cette puissance de la région et vraiment changer les donnes. Donc, il se tient loin. Il fait, encore une fois, service minimum, si vous voulez dire, pour empêcher une dégringolade catastrophique, en espérant que des mesures comme ça, des petits pas par petits pas, vont laisser jouer les forces régionales et voir ce que ça va donner à l'avenir. Et encore une fois, il va être président quand les conséquences de ses choix vont être révélées dans des mois ou des années à suivre.
Alors, deux gros dossiers pour la deuxième partie de cette deuxième partie. Alain Diekhoff, il y a d'abord l'Iran. On l'évoquait, carte de la diplomatie dans la négociation avec l'Iran qui a abouti donc à cet accord sur le nucléaire. Est-ce que on peut voir dans ce choix fait par Washington une possibilité finalement de voir le standing américain être renforcé dans le monde avec une modification donc de l'image? Et puis deuxième gros dossier, la question de la relation avec Israël, le conflit israélo-palestinien. On a quand même le sentiment aujourd'hui que Washington se refuse désormais à la moindre contrainte sur Israël et que finalement il n'y a plus aucune médiation. Est-ce que vous partagez?
Alors évidemment, ce sont deux dossiers importants, en partie d'ailleurs liés. Sur le dossier iranien, c'est vrai que Obama a fait ce choix, et je pense que ça a été un choix qui n'était pas évident, qu'il a finalement réussi, parce que les négociations, on le sait, ont été longues, et elles ont finalement abouti en juillet 2015 à un accord qui prévoit des restrictions sur l'enrichissement d'uranium, les limitations de la production de plutonium, le renforcement des inspections et une levée progressive des sanctions. Donc le dispositif est assez cohérent, il a commencé à être mis en œuvre. Et là aussi, bien évidemment, on est obligé d'être un peu prudent parce qu'il faut voir vraiment sur le long terme si il n'y a pas finalement une sorte d'agenda caché, en particulier du côté iranien. Mais ce qu'on peut dire avec certitude aujourd'hui, c'est que il a choisi cette voie après finalement une crise, je dirais, irano-occidentale qui a duré des décennies et on ne voyait aucune finalement perspective de sortie. Donc il a quelque part voulu sortir de ce cercle qui n'était pas vertueux justement pour faire un autre choix qui était celui de la diplomatie. Je pense qu'il a eu raison de le faire à ce moment-là, même si vous me disiez sur la question de l'image, oui, ça a été vu plutôt positivement, disons, en Occident. Par contre, dans la région, en particulier par les alliés américains traditionnels, que ce soit Israël d'un côté ou l'Arabie Saoudite de l'autre, critiqué par contre, parce qu'ils considèrent, encore une fois, ces deux États, en tous les cas, et leur gouvernement, que cet accord repose sur du sable. Je pense qu'ils ont tort, mais bon, en même temps, c'est pas une garantie que ce soit un succès. Alors sur le dossier israélo-palestinien, je pense que c'est vrai que la fin du mandat d'Obama peut donner l'impression qu'il n'a pas été très présent, mais je pense que c'est une erreur. En réalité, si on regarde sur les 8 années, donc avec un peu plus de précision, au contraire, il a fait beaucoup d'efforts, d'abord personnellement, au cours du premier mandat, en 2008-2009, il s'est beaucoup investi sur le dossier israélo-palestinien. Il avait même dit que un de ses objectifs, c'était de parvenir à la solution des deux États, donc qui est celle autour duquel il y a un consensus international. Il était parvenu d'ailleurs à obtenir de Netanyahou, ce qui était une première, un moratoire sur la colonisation qui a duré 10 mois. Donc il s'est beaucoup investi. Il a fini par, en effet, jeter l'éponge au premier mandat parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'y arriverait pas, et il n'y arriverait pas pour une raison qui a d'ailleurs été évoquée par Steven, c'est la question du Congrès, c'est-à-dire que Netanyahou a contré finalement Obama en s'adressant directement au Congrès américain et en lui montrant que finalement il avait un moyen de contrer les avancées qu'il essayait de faire diplomatiquement. Donc ça, c'est une donnée dont Obama a dû tenir compte, qu'il le veuille ou non. Et le deuxième mandat, il ne s'est plus investi personnellement parce que justement il avait été un peu échaudé par la première expérience, donc il a plutôt laissé John Kerry mener les choses, et John Kerry a investi beaucoup d'énergie en 2013-2014 avec à peu près une dizaine de voyages sur place. Bon, ben, pour finalement, malheureusement, arriver à un constat d'échec, c'est-à-dire l'impossibilité de pouvoir mettre les Israéliens et les Palestiniens autour d'une table. Mais ils ont essayé de faire des choses, ils se sont beaucoup investis, mais ils ont été obligés de composer évidemment avec la politique intérieure américaine d'un côté, comme je l'ai dit, via le Congrès, et puis bien évidemment aussi avec les blocages des deux partenaires, et en particulier du côté israélien. Ça, ils n'ont pas pu l'éviter.
Un constat d'échec et puis une relation somme toute également difficile entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou. Maya Kandel et Steven Ekovic, vous partagez. Steven Ekovic.
On peut estimer qu'il y a une solution au conflit israélo-palestinien, mais on peut peut-être d'une façon plus réaliste se dire que c'est un conflit qui a déjà duré très longtemps. Et le meilleur résultat, à la limite, c'est de gérer convenablement ce conflit et de tenter de garder les hostilités au plus bas niveau. Et peut-être si on juge les interventions américaines et d'autres sur cette perspective-là, on peut dire que les réussites, en fin de compte, ce sont des réussites d'une gestion dans la longue durée d'un conflit de basse intensité.
On peut dire aussi peut-être, et Alain Diakhoff l'évoquait en introduction de son propos sur l'Iran et Israël, que finalement la question iranienne a évidemment influé beaucoup aussi sur la relation des États-Unis avec Israël. C'est peut-être aussi ce qui explique finalement qu'il y ait cette absence de résultats de la politique américaine sur la question israélo-palestinienne, Maya Kandel.
Oui, je crois que ça a été dit. Il y a eu vraiment, après les efforts tout à fait importants et sérieux du premier mandat, il y a eu un abandon de la part de la Maison-Blanche de cette question, et aussi l'analyse d'Obama que finalement la question israélo-palestinienne n'était plus au cœur des crises les plus graves du Moyen-Orient, tout simplement, plutôt remplacée par aujourd'hui par la question du djihadisme, de l'État islamique, mais aussi d'Al-Qaïda, et donc de la recomposition, enfin décomposition étatique plutôt actuellement, et on l'espère, la recomposition, mais pour revenir à la lutte contre le terrorisme. Le groupe État islamique perd du terrain, effectivement, en Irak et en Syrie. Mais ce combat-là remet quand même en question le désengagement américain du Moyen-Orient. Or, beaucoup de choses dans la région sont aussi analysées à partir de la volonté de ce que font les États-Unis au Moyen-Orient.
Alors, pour rassembler un petit peu les idées en guise de conclusion, désengagement des États-Unis au Proche et Moyen-Orient, est-ce qu'on peut parler pour autant de repli de l'Amérique? C'est une question, en tout cas, sujet de discussion. Les États-Unis sont-ils en phase de déclin? Est-ce que c'est la réalité, d'après vous, Olendiekov?
Je pense que ce serait un peu hasardeux de passer d'une réorientation diplomatique des États-Unis au Moyen-Orient, qui, à mon avis, est en effet indéniable, avec les limites qui sont les siennes, d'en tirer la conclusion qu'il y a une sorte de déclin général des États-Unis. Je me garderais bien de conclure en ce sens-là. Par contre, oui, il y a une nécessité, à l'évidence, pour les États moyen-orientaux de s'adapter à cette inflexion, si elle se poursuit, et en particulier, évidemment, si c'est Hillary Clinton qui est élue, est-ce qu'elle prolongera finalement, étant démocrate elle-même, cette politique d'Obama, ou est-ce qu'elle reviendra à quelque chose peut-être d'un peu plus classique? Elle sera peut-être obligée, hein. En effet, la question du terrorisme, du djihadisme repose un peu à nouveau frais les enjeux, donc les années à venir seront à l'évidence extrêmement intéressantes de ce point de vue-là.
Alors, politique plus classique, qu'est-ce que l'on peut entendre? C'est vrai que c'est un retour en arrière, interventionnisme à nouveau, Stepanekovic?
Il y a des facteurs lourde qui empêche tout revirement dramatique dans la politique extérieure américaine. Hein. Et sur le déclin des États-Unis, je crois qu'on perçoit un déclin parce qu'il y a un certain essor des autres. D'ailleurs, qui utilise, je dirais, les moyens américains de réussir. Mais dans les années à venir, même quelques décennies à venir, je crois que les Américains vont encore être privilégiés de détenir des facteurs de puissance importantes, que ce soit économique, militaire, et même culturel, de culture de masse, si vous voulez. Ce qui donne l'impression au Moyen-Orient, je crois, et surtout chez les Palestiniens, que les Américains qui sont forts, peut tout simplement venir frapper leur poing sur la table et faire sauter les dirigeants israéliens. Je crois que c'est une perception erronée, mais je crois que c'est une perception assez répandue dans la région que les Américains ont le pouvoir, mais ils veulent pas l'employer parce qu'ils ont une relation trop serrée, trop intense et trop favorable à Israël.
Maya Kandel?
La situation en Syrie aujourd'hui est très inquiétante. Je pense qu'on voit très bien que Poutine est en train de jouer la montre parce qu'il considère qu'il a 3 mois, une fenêtre d'opportunité, enfin une fenêtre de tir.
Jusqu'à janvier.
Voilà, avant le prochain président américain. Je pense que lui aussi, il aimerait bien Trump, mais il se dit que ça risque quand même d'être Hillary Clinton et qu'elle, elle est plus interventionniste, elle a pris des positions beaucoup plus fermes en Syrie. Il y a vraiment un gros risque, au-delà du tragique de ce que vit la population d'Alep, entre autres. Mais il y a vraiment un gros risque de confrontation en Syrie. Les Russes avancent leurs pions. Jusqu'où pourront-ils le faire? Jusqu'où les Américains, et surtout si Hillary Clinton est élue, jusqu'où va-t-elle laisser les Russes agir en Syrie? Est-ce qu'elle ne va pas revenir à une position un peu plus ferme, plus interventionniste? On peut se poser la question. Et donc, je pense qu'on n'a pas fini de regarder ce qui se passe.
Et peut-être un élément également intéressant, c'est celui du rééquilibre ou rééquilibrage des forces entre Iraniens et Saoudiens dans la région. En tout cas, on peut peut-être conclure sur cette question. La décomposition au Moyen-Orient annonce-t-elle la recomposition? Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine émission. Merci à nos invités. Maya Kandel, spécialiste de la politique étrangère et de défense, ainsi que du Congrès américain, chercheur associé à l'Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Je signale votre blog Froggy Bottom sur la politique étrangère américaine. Merci aussi à Olendiekov, directeur du CERI Sciences Po et directeur de recherche au CNRS, et Stepanekovic, historien, analyste politique et professeur à l'Université américaine de Paris. Je signale également la parution aux presses universitaires de France de Géopolitique des États-Unis par Thomas Negarov et Alexandre Andorra, et le hors-série de la revue de Géopolitique Conflit, les visages de la puissance américaine. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, le débat. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Rendez-vous demain avec cette question. Qui gouverne le monde? Titre de la toute nouvelle édition de L'État du Monde, dirigée par Bertrand Badie et Dominique Vidal. À demain.